le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. On vous propose une série en fin d'émission. Un de nos journalistes a adoré De Grâce, disponible sur Arte. On a invité une des actrices pour en parler. Mais d'abord, on va faire le point sur la situation au Proche-Orient, sur la guerre entre Israël et le Hamas. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
D'intenses combats font toujours rage entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza. Plusieurs médiateurs internationaux tentent d'arriver à une trêve. Entre les accusations envers des employés de l'UNRWA, la décision de la Cour internationale de justice et les espoirs de libération des otages, il a beaucoup été question du Proche-Orient ces dernières semaines et ces derniers jours. On a donc demandé à Pauline Hoffmann, la chef du pôle international, de passer en studio pour analyser avec nous les derniers développements. Bonjour Pauline.
Bonjour.
On va prendre un peu de temps pour faire le point sur la situation au Proche-Orient. On a beaucoup parlé de l'UNRWA ces derniers jours, l'agence des Nations Unies en charge de la protection des Palestiniens. Au-delà de cette définition et de cet acronyme, c'est qui et ils font quoi ?
Je vais être un tout petit peu plus précise. Donc, c'est l'agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens. Donc, ça correspond à une certaine partie de la population palestinienne. L'UNRWA, donc, c'est un organisme qui a été créé en 1949, donc juste après la première guerre israélo-arabe, et le déplacement forcé de 700 000 Palestiniens, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Ces Palestiniens qui ont été déplacés de force ont acquis le statut de réfugiés avec l'espoir un jour de retourner sur leur terre. L'ONU a pris en charge la protection de ces personnes puisque tous les réfugiés du monde ont droit à une protection particulière. Et donc aujourd'hui, on a presque 6 millions de Palestiniens, donc les enfants et les petits-enfants de ces personnes qui ont été déplacées, qui continuent de tomber sous la protection de l'ONU. C'est un petit peu le cadre général, mais je crois que c'est important d'expliquer ça. Ces 6 millions de Palestiniens, ils habitent en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi au Liban et aussi en Jordanie. Et donc l'UNRWA s'occupe de gérer l'aide sociale, l'école, les hôpitaux, etc.
Pourquoi est-ce que ces jours-ci, plusieurs pays stoppent leur financement à l'UNRWA ?
En fait, il y a eu une série d'accusations qui ont été portées par l'État israélien sur la participation de 12 employés de l'UNRWA, donc des Palestiniens, puisqu'en fait, l'immense majorité des employés de l'UNRWA sont des Palestiniens. Ces 12 employés, selon les accusations portées par l'État hébreu, ont participé au massacre du 7 octobre, ce qui est évidemment des accusations très graves, et ça a entraîné le gel des financements à l'UNRWA. De plusieurs pays, 11 à l'heure actuelle, mais il n'est pas exclu que ce chiffre augmente. Il y a plusieurs observateurs qui ont noté une concordance des temps entre ces accusations et la décision de la Cour internationale de justice qui a été saisie par l'Afrique du Sud pour des accusations de génocide contre l'État israélien dans la bande de Gaza. Concordance des temps entre des accusations contre un organisme qui vient en aide aux Palestiniens et une Cour internationale de justice qui s'en est pris à l'État israélien.
On va parler dans un instant de cette Cour internationale de justice. Juste avant, la Belgique, elle fait partie des contributeurs à l'UNRWA. Elle n'a pas stoppé son financement. On sait ce qu'il en est. Il y a un débat autour de ça.
En tout cas, il y a des discussions qui en cours actuellement au sein du gouvernement belge. La ministre en charge de la coopération, donc Caroline Jeunet, a déclaré immédiatement après les accusations israéliennes qu'évidemment l'UNRWA devait faire une enquête et faire la lumière sur la participation de ses employés à des actes terroristes. Mais pour l'instant, il semble que le gouvernement belge ne se dirige pas vers un gel de ses financements. Il faut savoir que la Belgique, avec l'Espagne mais aussi l'Irlande, fait partie des pays européens qui sont généralement considérés comme les plus pro-palestiniens.
On en vient à la décision de la Cour internationale de justice dont vous parliez il y a quelques instants. La Cour avait été saisie par l'Afrique du Sud, qui a déposé une plainte dans laquelle elle accusait Israël de mener un génocide à Gaza. La Cour a estimé que l'accusation était plausible et que ça méritait un peu plus d'investigation. Si on veut résumer le verdict, c'est plus ou moins comme ça que ça va.
Tout à fait. Donc, il y a une décision qui a été prise. En fait, c'est un petit peu comme si la Cour internationale de justice se prononçait en référé. C'est-à-dire qu'elle se prononce dans un cas d'extrême urgence face à des combats et des massacres qui ont cours actuellement dans la bande de Gaza. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est demander une série de mesures, en l'occurrence pour prévenir un possible génocide. À l'heure actuelle, la Cour internationale de justice, donc qui est un organe qui émane de l'ONU, n'a pas affirmé si oui ou non un génocide était en cours dans la bande de Gaza. Donc elle a demandé des mesures provisoires en urgence qui, en gros, si je les résume, demandent à Israël de prendre toute une série de mesures pour éviter qu'un crime de génocide soit commis, puisque selon elle, il est plausible. Il n'y a pas aujourd'hui de demande de cesser le feu, c'est-à-dire que la Cour internationale de justice n'a pas dit à Israël « arrêtez tous vos combats ». Mais il me semble que si Israël se plie à ces demandes, ce qui me semble assez peu probable, ça impose un cessez-le-feu de fait. En tout cas, c'est ce que pointait l'ONG israélienne B'Tselem. Je crois que ce qui, par ailleurs, sur la Cour internationale de justice est intéressant de noter, c'est le poids, ou en tout cas la teneur des discours et des décisions qui ont été prises pendant cette audience. La présidente de la Cour internationale de justice a vraiment tenu un discours, a pris des décisions en se basant sur une série de faits qui étaient accablants pour l'État israélien. Il y a vraiment une écrasante majorité des juges qui sont prononcés pour le fait qu'un génocide était plausible. Donc sur 17 juges, il y en a seulement 1 à 2 qui se sont prononcés contre ce point de vue, sachant qu'un de ces deux juges est le juge israélien. Mais donc voilà, il n'y a pour l'instant pas de décision sur le fond. Ça peut prendre des mois, voire des années. Mais en tout cas, d'ici la fin du mois de février, Israël doit soumettre à la Cour internationale de justice un dossier qui détaille les mesures qu'elle a prises.
Dans un commentaire, vous avez qualifié cette décision de camouflet pour Israël. C'est sur l'aspect symbolique?
Oui, parce que en fait, je pense que beaucoup de monde ici ne réalise pas l'importance de la Shoah dans la construction de l'État israélien et dans la psyché israélienne, si je peux dire ça. Le fait que l'État hébreu, qui a été construit sur les cendres de la Shoah, l'ONU a donné à Israël le droit d'être sur la terre de Palestine à la suite de la Shoah, est vraiment constitutif de l'existence de l'État d'Israël. Et donc, je pense que pour le gouvernement israélien, mais pour les Israéliens, d'une manière générale, des accusations de génocide, c'est extrêmement lourd et symboliquement, c'est vraiment très très fort. D'ailleurs, on peut un peu regarder ce qu'a répondu Benjamin Netanyahou à la suite de la décision de la Cour de justice. Décision provisoire, je le rappelle, c'est pas une décision terminée. Mais donc, il s'est félicité du fait que la Cour internationale de justice n'avait pas ordonné un cessez-le-feu à Israël. Mais donc, il a aussi affirmé que l'affirmation même qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens n'est pas seulement fausse, mais scandaleuse, et la volonté de la Cour d'en discuter est une marque de honte qui ne sera pas effacée pendant des générations.
Les questions autour de l'UNRWA, les questions autour de cette décision de la Cour internationale de justice occupent l'actualité, et pendant ce temps, la guerre continue. C'est quoi la situation aujourd'hui à Gaza?
Donc, les combats sont toujours en cours. Ils se concentrent aujourd'hui singulièrement autour de la ville centrale de Khan Younes, qui donc se retrouve un peu au milieu de la bande de Gaza. Il y a surtout des combats qui sont pointés du doigt autour de deux hôpitaux. On se rappelle que la situation des hôpitaux est très 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 difficile dans la bande de Gaza. Et au début du mois de janvier, le gouvernement israélien avait promis une nouvelle phase de combat qui ciblerait la partie nord. Pour l'heure, les buts de guerre de l'État d'Israël n'ont pas été atteints.
Le Hamas n'est pas détruit?
Non. Leur but de guerre aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'ils continuent d'affirmer, c'est éradiquer le Hamas. On peut un peu douter de la faisabilité de ça, puisque le Hamas n'est pas seulement un mouvement armé, c'est aussi un mouvement politique. Et pour l'instant, Israël n'a pas déclaré mort les deux principaux chefs du Hamas à Gaza, à savoir Mohamed Deif et Yahya Sinwar. Donc voilà, il n'y a pas eu d'avancée notable, en tout cas importante, pour Israël sur son but de guerre principal. Par ailleurs, il y a la situation humanitaire qui est catastrophique, toujours et encore. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il y a, comme on l'a déjà dit plein de fois, un risque de famine sur 2 millions d'habitants. Il fait froid, l'hiver est enfin, j'ai envie de dire malheureusement là, dans la région. Il y a des blessés à non plus finir, avec très très peu de possibilités d'évacuation. D'ailleurs, en parlant d'évacuation, il y a un racket qui se déroule à la frontière égyptienne, des profiteurs de guerre qui réclament des milliers d'euros, des milliers de dollars en l'occurrence, aux Palestiniens qui voudraient essayer de sortir de la bande de Gaza. Il y a des orphelins qui sont les seuls survivants de toute leur famille élargie qui se retrouve seule dans des refuges justement gérés par l'UNRWA. Un bilan humain qui est de plus de 27 000 morts selon les autorités palestiniennes de la bande de Gaza qui est dirigée par le Hamas, je le rappelle. C'est un bilan, je pense que c'est important de leur dire, qui n'est pas aujourd'hui remis en cause par les agences de l'ONU.
Il reste aussi 132 otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza. Sur ces 132, 28 sont présumés morts par Israël. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de leur sort et d'une possible libération?
Il y avait une première salve de libération, si vous vous souvenez, fin novembre, pendant une trêve d'une semaine, avec des otages israéliens qui avaient été échangés contre des centaines de prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont très intenses, qui se déroulent par le biais du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, pour essayer d'obtenir une nouvelle trêve, un nouveau cessez-le-feu, enfin en tout cas quelque chose qui permettrait la libération des otages restants, ceux qui sont en vie, puisqu'évidemment il y a un doute sur le fait que certains d'entre eux aient pu être tués soit dans des bombardements, des combats par le Hamas ou les autres groupes palestiniens qui peuvent les détenir. En tout cas, il y a un doute sur le fait qu'ils soient encore en vie.
Il y a quelques semaines, on a fait un podcast avec vous sur les risques d'une expansion territoriale du conflit. Aujourd'hui, on voit que les échanges de tirs sont quotidiens, plus ou moins, entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière libanaise.
Oui, c'est une escalade qui est constante depuis le 7 octobre. C'est un front qui présente de gros risques aujourd'hui. Il y a des tirs effectivement vraiment quotidiens qui se déroulent entre le Hezbollah et l'armée israélienne. L'escalade, elle est constante, mais elle est mesurée parce que chacune des deux parties joue à un jeu où on répond à l'attaque de l'autre, mais on sait qu'on n'a pas envie d'aller vraiment trop loin. D'autant que la dernière guerre entre les deux pays, elle date de 2006, elle a été très violente, très marquante pour les deux pays, mais singulièrement pour les Libanais qui vivaient dans les villages à la frontière. Et surtout, ni les États-Unis, donc principal allié d'Israël, ni Israël ne veulent, je crois aujourd'hui, réellement d'une guerre avec le Hezbollah, qui est donc un parti chiite très puissant, mais qui est aussi à la tête d'une véritable armée. Le Hezbollah, par ailleurs, est soutenu par l'Iran, ennemi juré d'Israël. Iran qui lui-même rajoute un petit peu d'eau dans le gaz dans le golfe d'Aden.
Oui, c'est ça, pour ne rien arranger, l'influence iranienne, on la retrouve aussi un peu plus loin, plus au sud, tout au sud de la mer Rouge, au niveau du golfe d'Aden, on est juste au large du Yémen.
Oui, exactement, en fait c'est d'autres supplétifs iraniens qui jouent ici, c'est les Houthis. Donc les Houthis, c'est des rebelles yéménites qui dirigent l'ouest du Yémen. En fait, ces dernières semaines, ils ont lancé une série de drones et de missiles sur des cargos de commerce. Ils disent agir en soutien avec les Palestiniens. Et ça a vraiment fondamentalement perturbé le commerce international, puisque le trafic est interrompu dans cette zone-là.
Qui est une zone dans laquelle transite
12% du trafic maritime mondial transite par là. Et en fait, si on ne veut pas passer par là, c'est la zone qui mène vers le canal de Suez. Donc si on ne veut pas passer par là, on doit passer par le sud de l'Afrique pour ensuite accéder à la mer Méditerranée. Je vous laisse calculer le trajet supplémentaire. Évidemment, cette situation, elle dérange pas mal de monde. Et il y a notamment une force européenne qui doit être encore finalisée pour essayer de protéger les cargos de commerce. La Belgique a dit qu'elle participerait. Les modalités sont encore floues et doivent encore être décidées dans les prochaines semaines. En parallèle de ça, il y a aussi une coalition, cette fois dirigée par les États-Unis, dans laquelle participent notamment les Britanniques, qui, eux, mènent des frappes plus violentes contre les Houthis, notamment à l'intérieur du Yémen. Et donc ça fait aussi craindre une escalade dans une région qui risque vraiment de s'embraser à tout moment.
Et on suivra ça avec vous, notamment les autres journalistes du Pôle International dans les pages du soir. Merci beaucoup Pauline.
Merci.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous propose une série de grâce, est disponible gratuitement sur Arte depuis aujourd'hui. Une série qui plonge dans l'univers des dockers du Havre à travers l'histoire d'une famille qui se déchire sur fond de trafic de drogue et de secrets. Le père est docker et syndicaliste respecté. Tout bascule quand son fils cadet est arrêté au volant d'une voiture que son frère concessionnaire lui a prêtée pour la soirée. Voiture dans laquelle la police retrouve un kilo de cocaïne. Cédric Petit du Pôle Culture a adoré. Il a donné rendez-vous à l'actrice qui joue la mère de famille, Astrid Wetnal, dans notre studio pour en parler avec elle.
Bonjour Astrid Wetnal.
Bonjour.
Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené dans cette immersion dans le monde des docks au Havre?
On m'a fait parvenir le scénario et tout m'a beaucoup intéressée. Dès que j'ai commencé à lire le scénario, c'était un véritable page-turner, cette plongée dans le monde des dockers au Havre. Je trouvais ça super intéressant. C'est écrit de manière extrêmement documenté. On comprend le monde des dockers. C'est écrit avec beaucoup de respect, mais c'est une vraie autopsie du monde des dockers. Donc je trouve qu'on apprend beaucoup de choses, et sur le monde du syndicat. Et puis surtout, cette histoire de famille, c'est vraiment une tragédie familiale à la tragédie grecque, avec des rapports, je trouve, extrêmement bien écrits, extrêmement complexes, extrêmement humains, avec des blessures, des manquements, des non-dits, des gestes manqués, des attentes, des secrets de famille. Et donc tout ça m'intéressait au plus haut point. Absolument tous les personnages, on les suit, on vit l'histoire avec eux, on est en empathie avec eux. Ils sont tellement bien écrits. Et le personnage de Laurence, mon personnage, qui incarne toutes ces générations et ces générations de femmes qui ont toujours été dans l'ombre, qui ont tout fait pour que les hommes autour d'elles s'accomplissent dans la société, accomplissent leur destin, et elles n'existent pas vraiment, elles n'ont pas pris de place dans la société. Ça me touchait beaucoup aussi.
C'est exactement le cas de votre personnage, Laurence, qui est la femme de Pierre Le Prieur, qui fait partie du syndicat des dockers. Pierre Le Prieur joué par Olivier Gourmet, avec la question qui est comment une femme peut trouver sa place dans ce monde-là, dans un monde d'hommes, un monde dur.
Oui, c'est un monde extrêmement paternaliste, un monde extrêmement patriarcal. Quelle place, c'est la vraie question. C'est un peu les femmes d'hier. Laurence, c'est un peu une femme d'hier. Et justement, ce qui est très beau dans cette série et ce qui résonne complètement avec, je pense, la parole des femmes aujourd'hui dans la société actuelle, c'est que c'est à travers ces drames, cette fatum, ces malédictions qui vont s'abattre sur eux, qu'elles vont se révéler. Laurence, par exemple, mon personnage, elle va enfin trouver sa puissance en prenant enfin sa place dans la société. Même dans sa maternité, bon, elle, c'est une femme qui restait à la maison, qui s'est occupée des enfants pour que son mari puisse vraiment s'épanouir dans sa carrière. Elle se donne entièrement, en fait. Il y a un côté sacrificiel, on peut le dire. Et ici, c'est à travers ce tournant extrêmement difficile qu'il y a un vrai réveil de Laurence, de mon personnage, et qu'elle va trouver pleinement sa place dans la société actuelle, et surtout, même au-delà de ça, incarner mieux que jamais, enfin, sa maternité. Et c'est le moment où elle va vraiment être là pour ses enfants et pour les sauver de manière très instinctive. Ouais, ça, je trouve ça très touchant.
La série se passe au Havre, qui n'est pas très très loin de la Belgique. La série est une coproduction aussi belgo-française, avec un casting belgo-français, Panayotis, Pascot, Gringe. On a parlé d'Olivier Gourmet, on parle de vous également, de Pierre Lotin.
Margot Bancillon, voilà. Alizé Écosse, Xavier Beauvoir. Ouais.
Tout ça se passe en France, mais finalement tout ce qu'on raconte la série pourrait se passer en Belgique, à Anvers.
Mais oui, d'abord c'est une famille déjà, donc ça c'est très universel, ça pourrait se passer partout. Et puis c'est un port. Le Havre est un port, Anvers est un port. Ils connaissent exactement les mêmes difficultés. Ils ont des problèmes gigantesques avec les cartels de la drogue, donc il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de pression sur les dockers. Donc oui, tout à fait. Ça, ils vivent les mêmes problèmes. Et puis cette ultra-mondialisation qui débarque comme ça dans les ports, qui est représenté par des kilomètres et des kilomètres de containers, des grues à n'en plus finir, et à côté de ça une ville Anvers ou le Havre où les gens vivent, vont à l'école, on vont à leur travail. Donc c'est vraiment ces deux mondes qui s'entrechoquent
et qui dérégulent aussi les revenus, les salaires, avec l'argent de la drogue démesurément plus élevé que celui de la vie ordinaire des dockers.
Oui, c'est ça que je trouvais extrêmement bien écrite par Baptiste Fillon, un des deux scénaristes, Maxime Crupeau est le deuxième. Baptiste Fillon est havrais, il aime sa ville. Il aime tellement le Havre. Il a une partie de sa famille qui fait partie du monde des dockers. Et je trouve que c'est très très bien expliqué. On comprend les pressions auxquelles les dockers sont soumis par les cartels de la drogue. Et vous savez que pour un jeune docker, on lui propose par exemple 60 000 euros pour qu'il donne son badge 5 minutes, 6 minutes. Le temps qu'ils arrivent à ouvrir un conteneur, sortir la drogue. Bah, c'est hyper tentant. Comment voulez-vous refuser ça, 60 000 euros? Mais après, vous êtes pris dans un engrenage de violence et vous n'avez plus de liberté, quoi. C'est terrible. Ils ont un ascendant. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et je trouve que c'est très bien écrit. De la même manière que le secrétaire général du syndicat, joué par Xavier Beauvois, prévaut dans la série. On comprend comment il essaye de faire avec, en fait. Il ne peut pas. C'est-à-dire, il protège les dockers. Il essaie de vraiment garder sa communauté la plus protégée possible. Mais il est obligé de fermer les yeux sur certaines choses pour pouvoir les protéger aussi. Donc, c'est extrêmement complexe.
Eh bien, merci, Astrid.
Je vous remercie beaucoup.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.